Bien, nous allons pouvoir reprendre. Donc, le 13 mars 1997, l'Assemblée générale de l'ONU, réunie spécialement pour l'occasion, vote par 130 voix pour, 2 contre et 2 abstentions, 51 États n'ayant pas pris part au vote, une résolution reprenant les termes de celle à laquelle les États-Unis ont posé leur veto au Conseil de sécurité. Cela démontre l'isolement international de l'État hébreu. Les États-Unis rejettent cette interférence comme non productive dans le processus de paix. Le même jour, un soldat jordanien ouvre le feu sur des adolescentes israéliennes dans la zone frontalière, un territoire sous souveraineté jordanienne mais loué aux Israéliens, en tuant 7 et en blessant 6 avant d'être maîtrisé par ses camarades. Le roi Hussein, en visite en Espagne, se précipite en Israël pour montrer sa sympathie aux familles des victimes. Il leur fait parvenir une compensation matérielle $1 million. Ces gestes émeuvent l'opinion publique israélienne, mais sont plutôt mal jugés du côté arabe, d'autant plus que les coutumes de condoléances sont totalement différentes entre arabes et juifs. Les pratiques juives auxquelles le roi s'est naturellement plié sont interprétées comme des humiliations par les Jordaniens. Les milieux gouvernementaux israéliens font porter la responsabilité de l'affaire sur l'atmosphère créée par la lettre du roi. Les Arabes renvoient aux décisions prises par les Israéliens pour expliquer la tension. Les autorités jordaniennes qualifient immédiatement le massacre d'acte de folie, accusation habituelle dans ce genre de cas. Quelques semaines après, le soldat sera condamné à la prison à perpétuité par la justice jordanienne. Comme on n'a pas retenu contre lui la préméditation, il a échappé à la peine de mort. Pour le président des tribunaux militaires, il est évident que l'accusé souffre de désordre de la personnalité avec un caractère brutal qu'il ne peut contrôler. Il a affirmé avoir tiré parce que les écolières s'étaient moquées de lui et l'avaient interrompu dans ses prières. Les islamistes radicaux en Jordanie se sont solidarisés avec lui. Netanyahou, persuadé qu'il n'a rien à attendre de la communauté internationale et des Palestiniens, lance donc les travaux de Har-HaOmah et propose d'accélérer les négociations finales et, en cas d'échec, au bout de 6 mois, d'avoir recours à un sommet à Camp David. Une telle proposition ne peut être considérée par les Palestiniens que comme un moyen de s'évader des obligations prises dans les accords précédents, puisqu'il y a 3 redéploiements, plus la création du port et de l'aéroport de Gaza, le passage assuré entre Gaza et la Cisjordanie. Donc, c'est un rejet. En dépit des avertissements des services de sécurité sur l'aspect inimitablement violent des protestations arabes, le gouvernement israélien confirme la décision de lancer les travaux et Netanyahou lance une campagne de relations publiques accusant Arafat d'avoir donné le feu vert à des actes de terrorisme. Cela vise en particulier le dialogue national palestinien. Dans la perspective du Premier ministre, c'est une visée dissuasive faisant porter la responsabilité de la violence sur la partie palestinienne. Il promet par ailleurs la création de milliers de logements pour les Palestiniens de Jérusalem-Est, ce qui est totalement peu crédible puisque depuis l'occupation de juin 1967, il n'y a eu pratiquement pas de logements publics créés pour les Palestiniens dans la ville sainte et en qui on accorde en général qu'avec parcimonie les permis de construire. En fait, on détruit beaucoup plus de maisons construites sans permis. De même, on reprend une campagne de confiscation des papiers d'identité sous des prétextes divers afin de supprimer le plus grand nombre possible de statuts de résident arabe dans la ville simple. Le 18 mars, les travaux de Har-HaOmah commencent et les heurts sont immédiats. Le 20 mars, la violence à Bethléem prend l'aspect d'une petite intifada. Les policiers palestiniens assurent la protection du tombeau de Rachel à proximité de Bethléem. Le 21 mars, les États-Unis renouvellent leur veto sur une résolution du Conseil de sécurité condamnant en termes modérés la politique israélienne. Le même 21 mars, un attentat suicide à Tel Aviv fait 3 morts, en plus du porteur de bombes et plusieurs dizaines de blessés. Netanyahou accuse immédiatement Arafat d'avoir donné le feu vert aux terroristes. Hébron est mis sous couvre-feu et le bouclage des territoires reprend. Cette fois, l'administration Clinton prend la défense de l'autorité palestinienne. Les affrontements se poursuivent les jours suivants, tandis que la coopération sécuritaire entre Israël et l'autorité palestinienne se trouve suspendue. Et Arafat, lui, il échappe à la diplomatie américaine en faisant un grand tour du monde diplomatique, ce qui lui permet de ne pas répondre aux appels américains. Pour Clinton, encouragé par Dennis Ross, la question est de savoir si on doit conserver l'approche dite gradualiste, des petits pas, step by step, ou aborder le règlement des questions de fond. Mais avant tout, il faut rétablir le dialogue entre les parties. Le 27 mars, Ross réussit à intercepter Arafat au Maroc en marge d'une réunion de la conférence islamique et il lui communique une lettre de Clinton par laquelle le président américain s'engage à relancer le processus de paix et à lancer une initiative dans ce sens si Arafat prend les mesures nécessaires en matière de sécurité. Arafat se déclare satisfait et on lui demande de nouveau de lancer une campagne de répression antiterroriste et il se déclare d'accord. Netanyahou répond qu'il faut voir et qu'on s'entendra, on ne bougera pas tant qu'Arafat n'aura pas bougé, mais par contre, il est d'accord pour aller directement aux discussions sur le statut final. Mais on se dit qu'on ne peut aborder les questions finales que s'il y a un gel dans l'intervalle de la colonisation. Netanyahou dit c'est à Arafat d'abord d'agir en luttant contre la violence. Netanyahou a ainsi réussi à bien manœuvrer en posant comme préalable des mesures palestiniennes contre le terrorisme. Les Américains ne le critiquent plus et exigent maintenant publiquement un feu rouge d'Arafat contre la violence, tout en ne formulant que des promesses vagues d'engagement dans les futures négociations. De plus, Netanyahou fait savoir que les Palestiniens doivent réaménager leurs attentes et ne rien espérer en ce qui concerne Jérusalem et pour une bonne part de la Cisjordanie. Pour les Palestiniens, il n'y a plus rien à attendre de Netanyahou, qui est nettement plus radical que ses prédécesseurs. Et le 31 mars, le Conseil de la Ligue des États arabes recommande à ses 22 membres de stopper toutes les mesures de normalisation prise avec Israël et de cesser de traiter avec ce pays. Du coup, Israël accuse les pays arabes, en particulier l'Égypte, de jeter de l'huile sur le feu. Le 1er avril, 2 attentats suicides contre les colonies israéliennes de la bande de Gaza n'ont pour victime que leurs auteurs. Puis Netanyahou se rend aux États-Unis pour rencontrer les amis d'Israël. Il est presque convoqué à la Maison-Blanche par le président Clinton le 7 avril. Selon la langue de bois diplomatique, la conversation est très détaillée, franche, directe et longue, ce qui signifie qu'on ne s'est pas mis d'accord. Netanyahou continue d'accuser Arafat d'encourager le terrorisme et affirme le droit d'Israël de créer de nouveaux logements dans sa capitale. De toute façon, il n'est pas question d'exercer des pressions sur l'État hébreu. Bill Clinton s'est toujours présenté comme un ami d'Israël et le Congrès à majorité républicaine n'est plus encore. On se contente de suggestions aux Israéliens, montrer aux Palestiniens les bénéfices de la paix et prouver le sérieux des intentions de Netanyahou comme la construction de logements pour les Arabes à Jérusalem et quelques aménagements discrets de la colonisation. À la mi-avril, Dennis Ross repart pour le Proche-Orient. L'émissaire américain travaille à rétablir les relations de sécurité en organisant des réunions entre les chefs des services de renseignement israéliens et leurs homologues palestiniens. Le résultat reste précaire en l'absence de perspectives politiques. Or, la situation intérieure en Israël ne le permet pas. En effet, la position de Netanyahou est très affaiblie. La police recommande à la justice son inculpation pour fraude et prévarication dans l'affaire du Bébé Gate. Plusieurs membres de son entourage sont aussi concernés, dont son chef de cabinet, Avigdor Lieberman. Le sort du gouvernement de coalition est en jeu. Peres rejette la perspective d'un gouvernement d'union nationale qui procéderait aux négociations sur le statut final. Finalement, l'autorité judiciaire rejette les charges contre le Premier ministre tout en blâmant sévèrement sa conduite et les charges contre Arié Dery sont aggravées. Le Shah s'y voit la poursuite de la persécution contre les Juifs orientaux. Quant au Premier ministre, il évoque un complot ourdi contre son gouvernement par l'establishment travailliste, non pas à cause de prétendus délits, mais parce qu'il veut construire un Haoma, parce qu'il s'est opposé à l'État palestinien et parce qu'il refuse qu'Israël se retire du Golan. L'opposition saisit la Cour suprême, ce qui prolonge l'affaire jusqu'à la mi-mai. Finalement, la Cour suprême confirme les décisions précédentes et le dossier est clos à la mi-juin. Il n'en reste pas moins que Netanyahou est toujours vivement critiqué au sein de sa majorité et dans son propre parti. On l'accuse d'être un piètre administrateur, gouvernant de façon autocratique, au jour le jour, et d'avoir une piètre moralité. C'est un homme à qui on ne peut pas faire confiance et qui renie constamment sa parole. Un Isaac Shamir de sa retraite politique peut ainsi le caractériser, je cite, « c'est un menteur, un opportuniste et un égoïste ». Fin de citation. Je vous rappelle que le président Sarkozy avait dit à peu près la même chose du même individu quelques années après. L'impasse politique se poursuit au mois de mai, en dépit d'une rencontre à Eretz entre les présidents Weizmann et Yasser Arafat. Netanyahou continue d'exiger des mesures fortes contre le terrorisme et l'autorité palestinienne met sur le même plan violence et colonisation. Elle condamne de nouveau à mort tout Palestinien qui vendrait sa terre à Israël, reprenant ainsi une ordonnance jordanienne. Un courtier en terre est ainsi assassiné et on lui refuse un enterrement religieux musulman. La réputation de la famille est ruinée. L'autorité palestinienne dément avoir procédé à une exécution extrajudiciaire, tout en laissant entendre que l'intéressé méritait le sort qui lui a été infligé. Elle souligne que pour les Israéliens, propriété signifie souveraineté quand il s'agit de leur possession. Les États-Unis demandent à l'autorité palestinienne de respecter l'état de droit, mais 10 jours après, un deuxième courtier est assassiné. Il ne peut y avoir de rencontre israélo-palestinienne qu'en présence d'une partie américaine. C'est à peu près le seul résultat d'une tournée de Dennis Ross sur le terrain, un entretien israélo-palestinien à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis à la mi-mai. Les deux parties s'affrontent plutôt qu'ils échangent. Pas plus de résultats dans une rencontre entre Netanyahou et Moubarak. On est donc dans le constat d'échec et les responsables palestiniens proclament que le processus de paix est cliniquement mort et accusent Ross de partialité envers Israël. Madeleine Albright est obligée de prendre sa défense en disant qu'il a accompli un travail admirable. L'autoritarisme d'Arafat se manifeste avec la détention pendant une semaine d'un des plus brillants journalistes palestiniens, Daoud Koutab, de nationalité américaine. Son crime était d'avoir diffusé sur un canal de télévision éducative les délibérations du Conseil palestinien, où la gestion de l'autorité palestinienne était vivement critiquée, en particulier les affaires de corruption. Les émissions avaient été brouillées par la télévision palestinienne officielle, le journaliste l'avait fait savoir à la presse internationale. La contestation de l'autorité palestinienne porte aussi sur la brutalité de ses polices. Les défenseurs des droits de l'homme portent devant la scène publique des cas de torture et de décès dans les geôles palestiniennes. L'autorité palestinienne tergiverse et parle de mener des enquêtes et de sanctionner les responsables. Le conseil de l'autorité s'en prend les semaines suivantes à la corruption et accuse nommément les ministres du gouvernement d'Arafat de divers abus de biens sociaux. Le mécontentement de la population palestinienne se concentre sur les VIP, au mode de vie ostentatoire, et sur les Tunisiens, entre guillemets, les 10 000 personnes qui sont rentrées en Palestine avec Arafat et que l'on accuse de profiter du régime. Vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure sur, enfin la fois précédente, sur les profiteurs du régime, le rôle des hommes d'affaires de la diaspora. Le 29 mai, le quotidien israélien Haaretz publie un plan de partage de la Cisjordanie qui prévoit la restitution aux Palestiniens de 40% des territoires occupés. Ils seraient en outre morcelés en 5 zones séparées les unes des autres. Le gouvernement israélien dément l'existence du document, ce qui suscite la colère des Palestiniens. En fait, selon Haaretz, la majorité du gouvernement israélien serait d'accord pour un plan de ce genre. Le 31 mai, un troisième courtier de terre est assassiné. La police israélienne met directement en cause les services de renseignement palestiniens. Netanyahou accuse les Palestiniens d'aller contre le processus de paix en procédant à ces assassinats. Des amis d'Israël au Congrès demandent en guise de sanction la suspension de l'aide américaine à l'autorité palestinienne. Le département d'État répond que cette aide est demandée par Israël pour favoriser le processus de paix. Le 3 juin, Ehud Barak est élu avec 57% des voix à la direction du Parti travailliste. Son principal rival, Begin, n'a obtenu que 28% des voix. Le général le plus décoré d'Israël, âgé de 55 ans, paraître à même de battre Netanyahou aux prochaines élections. Sa position réservée par rapport au processus de paix est connue de tous. Il ne peut être donc accusé de vouloir tout céder aux Palestiniens. Tout en se présentant comme l'héritier de Rabin, il apparaît nettement comme étant plus faucon, selon le vocabulaire utilisé. À la mi-juin, la protestation contre la colonisation se reprend dans les territoires, faisant plusieurs dizaines de blessés. Elle souligne le risque de passer à une confrontation violente si le marasme politique se poursuit. Le blocage de la négociation réside dans le refus israélien d'un gel, même temporaire, de la colonisation, en dépit des engagements équivoques pris de façon personnelle par Netanyahou devant Denis Strauss, qui semble peut-être le seul à y croire. Il est clair que le Fatah et l'autorité palestinienne soutiennent en sous-main ces manifestations, voire les organisent, tout en tâchant de les contrôler afin d'éviter qu'elles ne dégénèrent. Le discours israélien joue sur la confusion entre juifs et israéliens, possession et souveraineté. Comme l'exprime le ministre de la Défense, Itzhak Mordechai, je cite, « À nos yeux, les Juifs ont le droit de vivre en Judée-Samarie, de même qu'ils ont le droit de vivre à Paris, à Londres, à New York et ou à Beyrouth prochainement. Nous avons pris l'engagement de ne plus construire d'implantations, nous respectons cet engagement, mais les implantations existantes doivent vivre et continuer de manière naturelle. La carte du règlement final sera fixée en fonction des impératifs de sécurité, tout en laissant à l'autorité palestinienne les moyens de contrôler les Palestiniens. Il n'est pas question de leur reconnaître le droit à l'autodétermination. Le problème est simple, il est impossible de donner à quiconque la capacité de mettre en danger l'État d'Israël aujourd'hui ou à l'avenir. » La tension s'accroît au début juillet du fait de la distribution à Hébron d'un tract blasphématoire représentant le prophète sous les traits d'un cochon. La police israélienne arrête une militante juive d'extrême droite, Tatiana Souskin, âgée de 25 ans, qui reconnaît l'auteur du sacrilège. Membre du groupuscule d'extrême droite raciste CAR, elle a pu déposer ses tracts sans être inquiétée. Les soldats israéliens ont expliqué par la suite qu'ils avaient préféré ne pas intervenir pendant la durée du Shabbat, le repos hebdomadaire qui débute le vendredi au coucher du soleil. Ils ne l'ont arrêté que le samedi soir, au moment où elle jetait des pierres sur des voitures palestiniennes. Cela suffit pour provoquer de nouvelles violences et susciter une menace du Hamas de reprendre les attentats. Suskin sera condamné en janvier 1998 à 2 ans de prison, puis libéré en novembre de la même année pour bonne conduite. L'impasse dans le processus de paix explique la trêve menée par l'organisation islamiste. Les autorités israéliennes présentent leurs excuses. Mais on trouve tout de suite une caricature offensante de la Vierge Marie dans un magazine israélien de science et, de nouveau, Netanyahou exprime ses regrets. Les violences à Hébron se poursuivent durant toute la première quinzaine de juillet. L'armée israélienne impose la fermeture des magasins arabes dans la zone qu'elle contrôle et ferme un certain nombre d'accès à la ville pour étouffer ses activités économiques. Le chef militaire de la région menace de rendre très difficiles les conditions de vie des Palestiniens s'ils ne mettent pas fin aux violences. Finalement, la police palestinienne reprend le contrôle de la situation afin d'obtenir la levée des mesures de bouclage. L'Égypte et l'Union européenne tentent chacun de leur côté de relancer le processus de paix, mais se heurtent au préalable imposé par l'autorité palestinienne d'un gel de la colonisation. L'Égypte n'a pas les moyens de la seconde et la seconde n'a pas la volonté d'exercer des pressions sur Israël. L'Arabie saoudite menace d'organiser un boycott de la 4e conférence économique pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord prévue en novembre 1997 à Doha, capitale du Qatar. Seule la Jordanie confirme pour l'instant sa présence. Les pays du Golfe, à l'exception du Qatar, sont d'autant moins enthousiastes qu'ils résistent au projet américain de constituer une banque du développement du Moyen-Orient. Cela se ferait avec leur argent à un moment où la rente pétrolière a considérablement chuté. Vous vous rappelez que dans cette période des années 1990, le baril de pétrole est à un cours extrêmement bas, parfois inférieur à 20 dollars, le baril, voire même largement en dessous, durant cette période, ce qui fait que la rente pétrolière a considérablement baissé au point que plusieurs des États producteurs de pétrole, en particulier de l'Arabie saoudite, sont obligés de s'endetter pour maintenir leur train de vie. Donc, dans cette période, ils n'ont pas d'argent à dépenser pour s'occuper des Palestiniens et les autres, et puis ils sont agacés de ces initiatives occidentales permanentes qui trouvent des moyens intelligents pour dépenser leur argent à eux. Ils trouvent qu'eux savent très bien dépenser par eux-mêmes. La Shin Bet démantèle un réseau recruté dans la police palestinienne qui aurait préparé des attentats contre une colonie juive et on accuse l'autorité palestinienne d'être compromise dans l'affaire, en particulier un des chefs de la police palestinienne, Razi Jabali. Arafat, à son habitude, tergiverse avant d'être contraint d'annoncer des mesures, tout en proclamant le succès de sa lutte contre le terrorisme. Les Européens se félicitent d'avoir réussi à organiser une rencontre entre Yasser Arafat et David Levy à Bruxelles le 22 juillet, et les Européens annoncent la reprise des négociations, mais semblent seuls à y croire. On avait plutôt eu une explication franche dans les différents dossiers. Les Américains s'inquiètent des risques que comporte toute cette situation d'impasse. Au mois de juillet, Ross s'est envoyé en mission secrète en Israël afin de faire bouger Netanyahou. Le voyage est organisé par la CIA, de telle façon à être incognito. Le premier ministre israélien craint de voir dans un tel procédé une forme de pression. L'envoyé américain lui explique que le président des États-Unis a l'intention de lancer une initiative et qu'il convient de l'en informer au préalable, mais pas les Palestiniens. Il faudrait obtenir des engagements des deux parties. Les Palestiniens devraient prendre des mesures concrètes en matière de sécurité, comme des arrestations, s'opposer publiquement à toute forme de violence et accélérer les négociations sur le statut permanent. Les Israéliens devraient créer des logements pour les Arabes, mettre fin à la confiscation des papiers d'identité destinés à supprimer le statut de résident à Jérusalem-Est, arrêter la démolition des maisons construites sans autorisation, permettre l'achèvement de l'aéroport et du port de Gaza et de suspendre l'expansion des colonies durant la période d'accélération des négociations. Dans l'immédiat, on doit fusionner les deux redéploiements prévus et respecter la date du mois de septembre pour le redéploiement. Bien entendu, Netanyahou approuve tout ce qu'on demande aux Palestiniens et se montre réservé en ce qui concerne la partie israélienne. Il essaye de gagner du temps, mais Ross n'est pas dupe. À son retour aux États-Unis, Clinton décide de retarder légèrement le lancement de l'initiative. On informera les Palestiniens du projet au début du mois d'août. Ils feront certainement des fuites en ce qui concerne les engagements israéliens. Et Netanyahou sera mis ainsi au pied du mur. Il sera obligé d'accepter ou de refuser, mais ne pourra plus tergiverser. Il semble donner un signe positif en s'opposant à un projet immobilier du maire de Jérusalem, Olmert, qui aboutirait à créer une nouvelle enclave juive à Jérusalem-Est. Ce projet est financé par le milliardaire juif américain Erwin Moskowitz, qui a déjà apporté son soutien matériel à plusieurs projets de colonies à Jérusalem et en Cisjordanie. Ce refus public permet à l'autorité palestinienne d'annoncer la reprise des travaux des commissions de négociation pour le début du mois d'août, mais ne tient pas compte d'une nouvelle demande de crédit posée à la Knesset en faveur de la colonisation de la Cisjordanie. Comme Ross annonce son prochain retour, Netanyahou, de façon préventive, déclare qu'Israël n'est pas un protectorat américain. Là, vous avez une grande classique, hein. Israël annonce un grand projet de colonisation avec des milliers de logements. Tout le monde hurle et Israël fait un geste en suspendant le projet. Donc, ça ne lui a rien coûté. Et les gens sont favorablement impressionnés. On refait ça régulièrement, on a eu ça cette semaine. C'est une classique, mais bon, ça fait partie des rituels. Sur le terrain. Le 28 juillet 1997, pour le premier anniversaire de son gouvernement, Netanyahou se félicite à la télévision israélienne de sa fermeté devant le terrorisme, contrairement à ses prédécesseurs. Les Palestiniens ont compris et combattent le Hamas et le djihad islamique. La sécurité d'Israël est bien mieux assurée. Ils ont à la fois la paix et la sécurité. Mais le 30 juillet, deux attentats suicides dans un marché public de Jérusalem font 13 morts, en plus des deux terroristes, et de nombreux blessés dans la population israélienne. Immédiatement, Netanyahou engage l'épreuve de force avec Arafat, accusé d'être le principal responsable de la violence, et menace de faire entrer l'armée israélienne dans les territoires autonomes pour des opérations militaires limitées ou de traquer les militants islamistes si la police palestinienne ne se montre pas assez coopérative. Et on a l'habituel dispositif répressif, suspension des négociations, bouclage des territoires, arrêt des transferts fiscaux. Du côté palestinien, selon la formule habituelle américaine, on arrête les suspects habituels, qui sont en général toujours les mêmes. On a des listes préparées, donc on les arrête, on les tient 3 semaines et on les libère. Ça fait partie aussi des rites du processus de paix. On parle de déclaration de guerre à l'autorité palestinienne et au peuple palestinien et non au terrorisme. On n'arrive pas à identifier les auteurs de l'attentat, même s'il a été revendiqué par le Hamas. Ce fait rare ne permet pas de savoir s'ils viennent d'un secteur sous contrôle palestinien ou israélien. Arafat va même jusqu'à insinuer qu'ils viennent de l'extérieur, ce qui provoque la colère des autorités libanaises. Le bouclage est particulièrement strict, même pour les VIP. La population est enfermée dans les villages et les villes avec interdiction d'en sortir et l'économie est totalement paralysée. Chacune des parties apparaît ainsi affaiblie. Arafat, accusé de corruption, n'a pas de résultat tangible à apporter du processus de paix. L'accord serait bon, était une renégociation, il n'y a pas eu de redéploiement. Le piège d'une cantonalisation, ghettoisation de la Palestine est maintenant évident, d'autant plus que la colonisation juive s'est ouvertement intensifiée. Sous les travaillistes, elle était plus discrète. Netanyahou, qui navigue au jour le jour, manipulant les uns contre les autres, les unes contre les autres les factions du Likoud, a vu démentir dans les faits son programme de paix avec sécurité. Les extrémistes de chaque bord paraissent l'emporter. Les sanctions collectives contre la population palestinienne renforcent la position des islamistes pour lesquels le processus de paix n'est qu'une duperie. les partisans du grand Israël triomphent en affirmant que l'autonomie palestinienne est un danger pour la sécurité d'Israël. L'une des premières demandes de Netanyahou, quand Clinton lui a présenté par téléphone ses condoléances, a été la suspension du projet américain. Cela avait été accepté, mais en même temps, le risque tout simplement d'arriver à un effondrement de l'autorité palestinienne sous le coup des sanctions collectives israéliennes préoccupe l'administration Clinton. Au-delà, le président des États-Unis considère que les actions prises contre Yasser Arafat sont contre-productives. S'il tombe du pouvoir, il sera remplacé par des terroristes. Il résume en privé la situation en disant que quiconque qui remplacerait Netanyahou serait meilleur pour le processus de paix, tandis que celui qui remplacerait Arafat serait pire. Il faut donc reprendre l'initiative politique. Madeleine Albright s'en charge dans un discours le 6 août 1997. Elle fait un historique du processus de paix qui bénéficie à tous. Le terrorisme est un mal absolu qu'il faut combattre. Le processus de paix est irréversible, mais il faut en accélérer le déroulement. Pour mettre fin à la dangereuse crise de confiance actuelle, il faut revenir aux principes de base. D'abord, un engagement mutuel envers la sécurité et contre la violence. On ne peut pas attendre 100% de succès de la part de l'autorité palestinienne, mais un engagement à 100% contre le terrorisme en coopération étroite avec les Israéliens. L'engagement doit être constant et absolu. Le second principe est que tout doit être réglé à la table des négociations et que rien ne doit préjuger sur le terrain du résultat final. Montrant une totale incompréhension de la situation historique des Palestiniens, la secrétaire d'État fait la déclaration fondamentale qu'il ne peut y avoir d'équivalence entre le recours à la violence et la construction de maisons, c'est-à-dire qu'elle entérine la colonisation. Mais les Israéliens ne doivent pas seulement prendre en compte la légalité de leurs mesures, mais aussi leur sagesse. C'est le maximum que la diplomatie américaine puisse se permettre en matière de critique de la politique israélienne. Chaque parti ne doit avoir qu'une seule solution, option possible, celle de la paix. Elle rappelle les résolutions 242 et 338, le principe d'échange de la terre contre la paix. Et elle parle à la fois de la poursuite de la démarche graduelle ou incrémentale, comme disent les diplomates, c'est-à-dire pas à pas, et en même temps une intensification des négociations sur le statut final, qui, je me le rappelle, n'ont pratiquement toujours pas commencé. En ne mettant pas sur le même pied d'égalité la colonisation et la violence, ou en ne pouvant pas le faire en raison de la solidité de l'alliance et de l'amitié entre Israël et les États-Unis, la diplomatie américaine ne peut pas revendiquer une position d'honnête courtier, alors qu'en fait, elle n'exerce des pressions que sur une seule partie, la plus faible, les Palestiniens, contrairement aux précédents de George Bush et de James Baker. C'est à ce moment-là que, clairement, le processus de paix devient un but en soi pour Washington, indépendamment de ses résultats effectifs. N'ayant que cet horizon à l'esprit, les diplomates américains, pris dans l'incessant travail quotidien d'essayer de renouer les fils de la négociation, ne voient pas, ne peuvent pas voir et ne veulent pas voir que l'entreprise est condamnée par la dissymétrie de leurs approches. À l'époque, Edward Said, dont les écrits étaient interdits dans la Palestine d'Arafat, a fait une critique ravageuse de l'expression de Madeleine Albright. Je cite « Lorsque M. Clinton et Mme Albright répètent la formule actuellement employée sur le front de la propagande par le lobby israélien, il n'y a pas d'équivalence entre les bombes et les bulldozers, il faut qu'ils expliquent à une famille palestinienne qui vient d'être expulsée, à des Palestiniens qui subissent le couvre-feu, à des Palestiniens dont les maisons ont été détruites, dont les enfants, garçons et filles croupissent dans les prisons israéliennes, qui ont été fouillés au corps par des soldats israéliens ou déplacés hors de Jérusalem pour que des Juifs russes puissent s'établir dans leurs maisons, qui ont été tués dans des massacres ou privés de tout droit de résister aux forces d'occupation israéliennes, ce qui est dans un tel contexte l'équivalent d'un bulldozer israélo-américain. » Le secrétaire d'État annonce le prochain envoi de Dennis Ross dans la région, puis sa propre visite à la fin du mois. Son discours est officiellement bien accueilli par les intéressés, qui en tirent des conclusions totalement contradictoires. Les échanges d'invectives se poursuivent. Netanyahou assimile l'autorité palestinienne aux États terroristes comme la Libye, l'Irak et l'Iran. Arafat menace l'État hébreu d'explosion de violence s'il continue à s'en prendre à la population palestinienne. Les deux se font réprimander par Madeleine Albright et le département d'État, alors que des violences éclatent au Liban Sud. Après plusieurs jours d'affrontements, il y a des victimes civiles du côté libanais et le Hezbollah réplique le 8 août par une volée de roquettes sur la Galilée. 14 Libanais ont été tués en une semaine. Ça fait partie de la syntaxe sous contrôle international, enfin, américano-français. Denis Ross commence sa médiation le 10 août. Il se sert de la prochaine visite du secrétaire d'État comme instrument de chantage auprès d'Arafat, toujours soucieux d'avoir ses contacts au plus haut niveau sur la scène internationale. S'il ne cède pas sur la question de la sécurité, il n'y aura pas de visite. Arafat cherche à accroître l'implication américaine. Il accepte de reprendre la coopération avec Israël sur les questions de sécurité, mais à condition que les États-Unis y participent. On tient donc des réunions consacrées à la sécurité sous égide américaine. De fait, les Américains, c'est-à-dire en particulier les responsables locaux de la CIA, se trouvent investis d'une capacité d'arbitrage permettant de désigner si les uns et les autres sont sérieux dans leurs actions. Dans l'impasse politique en cours, la seule stratégie d'Arafat, qui n'attend plus rien du gouvernement israélien, est d'impliquer le plus possible les Américains dans la gestion courante des affaires. De plus, en bon Moyen-Oriental, il a tendance à croire à l'omnipotence de la centrale de renseignement américain. Pour dire que de son côté, l'Union européenne décide de dépêcher auprès de l'autorité palestinienne un expert suédois de la lutte antiterroriste, ceci étant proche de provoquer une crise d'hilarité générale, puisque sur le sujet, l'expert suédois doit en particulier enseigner les bonnes méthodes en matière d'interrogatoire. Comme le Congrès n'a pas prolongé une loi autorisant temporairement à entretenir des relations avec l'ONP, le bureau de l'organisation à Washington est obligé de fermer sous instruction du département d'État. Néanmoins, l'aide américaine aux Palestiniens est maintenue. À la mi-août, compte tenu des progrès enregistrés, Madeleine Albright confirme sa venue prochaine au Proche-Orient. Mais en dehors des rencontres sur la sécurité, rien ne s'améliore vraiment. Abou Mazen a des entretiens secrets avec des responsables israéliens qui n'aboutissent à rien. Les autorités israéliennes intensifient la campagne de destruction des maisons arabes à Jérusalem, bâties sans permis de construire. L'autorité palestinienne lance un boycott partiel des produits israéliens en représailles du blocage des fonds palestiniens. Israël annonce alors un déblocage partiel. En même temps, Arafat reprend le dialogue national avec les mouvements islamistes, appelant à une union nationale contre les sanctions collectives israéliennes. Les Palestiniens ne sont qu'une seule et même personne dans les circonstances actuelles qui ne réussiront pas à détruire notre peuple car ils se battent depuis 100 ans contre une seule et même personne. Comme il embrasse publiquement Abdelaziz al-Rantissi, dont Israël exige l'emprisonnement. Le Hamas maintient sa ligne politique que seule la lutte armée permettra de libérer la Palestine. Mais Arafat s'en tient à la paix des braves. C'est la paix comme nous la comprenons. La paix des braves, pas la paix des faibles ni des lâches. Il ne faut pas oublier que la majorité des Israéliens veulent la paix. Et nous leur disons, nous sommes avec nous. Arafat est parfaitement conscient de l'ampleur du mécontentement populaire palestinien à l'égard à la fois de sa gestion gouvernementale, de la détérioration de l'économie et des impasses du processus de paix. Il sait qu'il n'est pas en position de combattre frontalement les islamistes et de toute façon, il refuse la perspective catastrophique de la guerre civile, qui apparaîtrait de plus faite à l'instigation des Israéliens et des Américains. Il retourne contre les parrains du processus de paix, le reproche d'autoritarisme, et dit qu'il doit respecter l'état de droit et donc les libertés publiques. Il ne peut être question d'arrestations arbitraires et autres mesures d'exception. D'autres, il y aurait été général au passage. le gouvernement israélien s'indigne du double langage du président de l'autorité palestinienne et considère son comportement comme une véritable provocation. Mais c'est le Liban qui attire l'attention. Le 18 août, l'ALS, l'armée du Liban Sud, en représailles de l'explosion d'une bombe ayant fait 3 morts, dont 2 adolescents, attentat dont le Hezbollah rejette la paternité, bombarde un certain nombre d'agglomérations dans la ville de Saïda. Le Hezbollah et pour une fois l'armée libanaise répliquent en bombardant les positions de la milice supplétive. Le bilan est de 15 morts, dont 6 à Saïda. Israël essaye de se dédouaner en rejetant la responsabilité des événements sur l'ALS. C'est une affaire libanaise. En représailles, le Hezbollah lance 2 salves de roquettes qui atteignent la Galilée. Les dégâts apparaissant comme minimes, Netanyahou s'engage à ne pas se lancer dans une escalade. Mais ce n'est qu'une feinte. Le 20 août 1997, l'aviation israélienne s'en prend à l'infrastructure civile du Liban Sud, et en particulier le réseau d'alimentation électrique. Il s'agit de punir l'État libanais pour son soutien à la résistance islamique en général et pour l'entrée en action de sa propre armée en particulier. Le Hezbollah répond en intensifiant sa guérilla à l'intérieur de la zone occupée et Israël bombarde en représailles les villages libanais voisins sans faire de victimes. Le groupe de surveillance appelle les partis à cesser de s'en prendre aux civils. Le 29 août, l'armée israélienne perd 4 soldats dans une incursion en dehors de la zone de sécurité. Ils ont été victimes d'un bombardement venu de leur propre, ce qu'on appelle en langage militaire, un tir ami. À la fin août, Bethléem et ses environs, toujours soumis à un bouclage total, contrairement aux grandes villes de la Cisjordanie, entrent dans une phase de révolte populaire. Israël accuse l'autorité palestinienne d'attiser le mouvement. Cette dernière répond que ce sont les sanctions collectives qui en sont la cause. Pour calmer la situation, Israël lève le blocus de la ville. Le 29 août, on annonce que la tournée Madeleine Albright commencera le 9 septembre et qu'elle se rendra en Israël, dans les territoires palestiniens, en Égypte, Jordanie, Syrie et en Arabie Saoudite. On doit aussi évoquer les dossiers irakiens et iraniens, mais le morceau de résistance est le processus de paix. Le 4 septembre, un triple attentat suicide dans un espace public à Jérusalem fait 4 tués israéliens en plus de leurs auteurs. 8 personnes sont sévèrement atteintes et 180 plus légèrement. L'opération est revendiquée par la branche militaire du Hamas, mais la question de l'authentification reste posée, d'autant plus que pour la seconde fois, les auteurs de l'attentat ne sont pas identifiés. En général, on connaît les attentats suicides sont revendiqués par les suicidés eux-mêmes. Donc, on sait d'où ils partent parce que l'auteur de l'attentat suicide a laissé une bande vidéo dans laquelle il fait un testament public, etc. Donc, on l'identifie, on sait de quel village, de quelle famille il est. Mais dans ces cas, on n'a pas de revendication de la part des suicidés. Immédiatement, le bouclage des territoires qui avait été un peu relâché est sévèrement réinstauré. Arafat se trouve même un moment interdit de déplacement hors de Gaza. Et Israël accuse l'autorité palestinienne de ne pas lutter suffisamment contre le terrorisme et les réunions de sécurité sont annulées. Pour la partie palestinienne, cela démontre l'absence de sérieux des Israéliens qui sont embarrassés par la présence américaine qui leur interdit de raconter n'importe quoi après les réunions. Parallèlement, l'autorité palestinienne procède à l'arrestation des militants islamistes, les suspects habituels, tout en marquant qu'en absence d'identification des auteurs de l'attentat, on peut considérer qu'ils ne viennent en dehors de la zone A, voire de l'étranger. Il est d'ailleurs possible qu'ils aient disposé de complicité à Jérusalem-Est. Cela ne correspond pas à la liste d'arrestations soumises par Israël qui comprendrait des centaines de noms. Les autres exigences sont la suppression de l'infrastructure civile du Hamas et le contrôle des mosquées. Contradictoirement, le gouvernement israélien demande aussi la réduction du nombre de policiers palestiniens de 35 000 à 24 000. Quant aux personnes arrêtées par la police d'Arafat, pour Netanyahou, ce ne sont que des sardines, non des requins. Le lendemain de l'attentat, le 5 septembre, un commando d'élite de la marine israélienne opérant dans la région de Saïda, bien en dehors de la zone dite de sécurité, dans le but probable d'enlever un dignitaire chiite, est pris sous les feux conjugués des combattants du Hezbollah et d'Amal et des soldats de l'armée libanaise. Le bilan est lourd. 11 soldats israéliens sont tués, plus un disparu, portant le bilan des pertes israéliennes au Liban depuis 1982 à 864 morts. Le bilan comprend aussi une civile palestinienne qui passait en voiture et qui est tuée, et plusieurs civils et combattants libanais blessés. Netanyahou déclare à la télévision « Nous menons sur deux fronts un combat difficile et cruel contre de vils terroristes dont l'unique objectif est de détruire l'État d'Israël, d'assassiner ses citoyens. Nous le disons clairement, ces meurtriers ne réussiront pas à nous anéantir. » Néanmoins, la question du maintien de l'occupation du Liban Sud se trouve de nouveau posée, ainsi celle de savoir s'il existe une solution militaire au terrorisme ou si une solution politique est possible. Nasrallah, chef de Hezbollah, affirme que son organisation possède les restes de plusieurs soldats israéliens et qu'elle est prête à les changer contre des prisonniers libanais détenus par Israël. De son côté, Ariel Sharon pose le problème politique de la liaison entre le Liban Sud et l'occupation du Golan. Tant que cette dernière durera, la guerre d'usure se poursuivra au Liban. Si Israël veut conserver le plateau du Golan et d'autres lieux stratégiques nécessaires à sa sécurité, à l'opposé des exigences syriennes, le Hezbollah intensifiera ses actions de terreur jusqu'à ce que nous cédions. Il ne croit donc pas à l'impossibilité d'un arrangement séparé avec le Liban et propose deux solutions. Soit une escalade militaire en évitant les opérations terrestres et en donnant priorité à l'aviation, soit un retrait du Liban Sud de notre propre chef et selon notre propre calendrier. Cela peut se faire en l'absence de négociations avec la Syrie et sans avoir à payer en échange un prix politique ou sécuritaire. Le voyage de la secrétaire d'État commence sous les plus mauvais auspices. L'explosion de violence l'amène à se concentrer presque exclusivement sur les exigences sécuritaires israéliennes, alors que l'impasse dans le processus de paix se répercute sur l'affaiblissement de la coalition arabe destinée à contenir l'Irak. La monarchie saoudienne, qui fait face à une radicalisation islamiste d'une partie de son opinion publique, mène la campagne en faveur du boycott du sommet économique de Doha. C'est d'autant plus grave qu'en Iran, un réformateur modéré, Mohamed Khatami, vient d'être élu président de la République. Bien qu'il ne contrôle pas la politique extérieure de son pays, l'image de ce dernier s'est considérablement améliorée. Le prochain sommet de la conférence islamique doit se tenir début décembre à Téhéran, et le risque de voir les pays arabes qui boycottent Doha y participer, ce qui soulignerait la dégradation de la position régionale des États-Unis. La visite de Madeleine Albright commence le 10 septembre à Jérusalem par une visite au Yad Vashem, cérémonie particulièrement émouvante pour une personne qui vient de découvrir que trois de ses grands-parents sont morts dans les camps de concentration nazis. Puis elle se rend dans un hôpital israélien rencontrer les victimes du dernier attentat. Le premier entretien politique est avec le premier ministre israélien à qui elle demande si le processus d'Oslo est mort. Il lui répond qu'il faut qu'Arafat arrête les chefs du Hamas, confisque les armes, met fin aux incitations à la terreur, y compris celles des prêcheurs des mosquées. Alors on pourra aller aux discussions sur le statut final. Les accords intérimaires avec le retrait programmé ne font qu'encourager le conflit et la terreur. Il refuse de considérer les autres aspects du dossier comme les bénéfices concrets qui pourraient tirer les Palestiniens du processus de paix. On évoque aussi le danger de voir l'Iran se doter d'armes de destruction massive, en particulier de missiles balistiques livrés par la Russie et la Corée du Nord, ainsi que de la possibilité de reprendre les négociations avec la Syrie. Dans la conférence de presse commune, elle s'aligne complètement sur les exigences sécuritaires d'Israël. La lutte contre le terrorisme est la condition sine qua non pour faire progresser le processus de paix. Il n'y a pas d'équivalence morale entre tuer des gens et bâtir des maisons. Elle est plus vague sur le reste, tout en affirmant la nécessité de conjuguer les accords intérimaires avec les négociations sur le statut final. Cette attitude est immédiatement dénoncée par plusieurs personnalités palestiniennes qui l'accusent d'alignement complet sur les positions israéliennes sans prendre en compte les souffrances palestiniennes. Le lendemain, Albright est à Ramallah pour rencontrer Arafat. Lors de l'entretien de 3 heures, elle insiste sur la nécessité d'un engagement total contre le terrorisme. Elle reconnaît que l'interruption du versement des sommes dues par Israël à l'autorité palestinienne ne peut être considérée comme une mesure légitime. Lors de la conférence de presse, elle admet la souffrance des Palestiniens. Elle comprend leur frustration, ce n'était pas ce qui était censé apporter le processus de paix. Il ne faut pas qu'ils perdent l'espoir, qu'ils abandonnent la logique d'Oslo. Les négociations finales devront être basées sur les résolutions 242 et 338 qui comprennent le principe de la terre contre la paix. Le soir, la secrétaire d'État fait quelques corrections lors d'un entretien avec des lycéens israéliens retransmis à la télévision. Israël doit s'abstenir d'actes unilatéraux comme l'expansion provocatrice des colonies, la confiscation de terres, la démolition de maisons et la confiscation de papiers d'identité. Il faut une pause dans ce genre de mesures afin de créer un climat dans lequel les négociations accélérées peuvent réussir à un accord final. Cela provoque immédiatement une protestation des porte-parole de Netanyahou. Il n'est pas question d'arrêter l'expansion des colonies, qui sont des organismes vivants. Le lendemain, c'est le tour des lycéens palestiniens. La langue de bois diplomatique se heurte à la réalité de la vie quotidienne palestinienne. Un élève né à Jérusalem demande pourquoi, depuis 3 ans, il n'a pu se rendre dans sa ville natale. Un autre propose que la ville sainte soit la capitale à la fois d'Israël et de la Palestine. Un troisième lui demande ses sentiments sur la terreur provoquée par des arrestations à minuit de personnes innocentes, des armes braquées, des remarques humiliantes au barrage, des attaques contre sa religion et la destruction de maisons et de rêves. Elle reprend son refrain sur l'absence de justification morale aux attentats, ce qui n'est pas la question posée, et renvoie à la nécessité de poursuivre le processus de paix. Les États-Unis ne peuvent qu'y contribuer, ils ne peuvent pas imposer une solution. Elle se rend bien compte que ces paroles n'ont rien de réconfortant pour ses auditeurs, qui ne cachent pas leur déception à la presse internationale. Madame Albright se rend ensuite à Damas pour une courte visite sans conférence de presse ni d'entretien avec la jeunesse. Assad proclame son respect pour le président des États-Unis et son secrétaire d'État. Il s'en tient fermement à sa position, la paix contre le retour en ligne du 4 juin 67, ce qu'il considère comme acquis lors des dernières séances de négociation. Le passage de la secrétaire d'État en Syrie est suivi d'une reprise de combat au Liban Sud. Un commando du Hezbollah est intercepté par l'armée israélienne, tandis que des raids aériens israéliens frappent l'armée libanaise, 6 militaires sont tués. C'est considéré comme une punition pour avoir participé à l'interception du raid israélien de la semaine précédente. Parmi les combattants du Hezbollah tués se trouve le fils d'Hassan Nasrallah. Le chef du Hezbollah remercie Dieu de la mort en martyr de son enfant. Les Israéliens emportent les dépouilles mortelles dans la perspective d'un nouvel échange de restes humains. Les jours suivants, ils perdent 2 soldats tués dans l'explosion d'une bombe. Le Hezbollah se déclare non intéressé par un échange de cadavres. Il veut en contrepartie la libération des prisonniers libanais en Israël ou détenus par l'ALS. Madeleine Albright se rend ensuite en Égypte puis en Arabie Saoudite. Le président Moubarak la félicite pour son action en faveur du processus de paix. Les responsables saoudiens l'accueillent avec respect mais restent fermes sur leur refus de participer au sommet de Doha. Mais ils ont besoin de la protection américaine face à l'Irak et à l'Iran. Les Américains leur demandent aussi de cesser de financer le Hamas par des donations privées. Ensuite, c'est le tour du roi Hussein, qui se montre toujours un fidèle ami des États-Unis, ou qui, en tout cas, cultive cette image. Albright termine son voyage par une visite surprise, pour des raisons de sécurité, au Liban, où elle se félicite de la reconstruction du pays. Denis Ross tire avec ses interlocuteurs palestiniens les conclusions du voyage. Abou Mazen considère que l'autorité palestinienne n'a d'autre choix que d'agir contre le Hamas. Arafat refuse tout commentaire, mais pressé par le diplomate américain, marque qu'il agira contre le mouvement islamiste. De fait, l'autorité palestinienne interdit l'association des étudiants proches du Hamas. Les mesures antiterroristes sont maintenant supervisées par les représentants de la CIA pour pouvoir en démontrer le sérieux auprès des Israéliens. Ces derniers font un versement partiel des sommes dues à l'autorité palestinienne et Netanyahou affirme son opposition au projet immobilier de Sam Moscovitz dans la Jérusalem arabe, mais ne peut les empêcher pour des raisons juridiques. Tout cela reste très modeste. Le voyage à Madeleine Albright a surtout révélé l'incapacité de l'administration Clinton de débloquer la situation et ses partis pris. Elle a multiplié les gestes sincères d'amitié envers Israël et les reproches à l'autorité palestinienne. Si on peut discuter du refus d'équivalence entre la violence politique et la colonisation, cette dernière ne connaît que des critiques sans qu'on se donne les moyens de l'arrêter. Ainsi, quand le gouvernement israélien annonce la création de 300 nouvelles unités de logement près de Bethléem le 24 septembre, la secrétaire d'État ne peut que dire que cela ne contribue pas à établir la confiance entre les parties. Elle aimerait bien que la pause dans la colonisation qu'elle a appelée soit respectée, mais ses protestations sont uniquement verbales et n'aboutissent à rien de concret. Le département d'État essaye alors d'imposer l'idée que sans pause, les négociations finales ne pourraient réussir, comme si le règlement final était l'objectif de Netanyahou. Autrement dit, les pressions ne s'exercent que sur un seul côté. Face à la souffrance palestinienne, on n'a pas grand-chose à dire, sauf de blâmer les Palestiniens d'en être responsables du fait du terrorisme. Quand la police israélienne identifie, grâce à des prélèvements ADN sur des parents suspects, quatre des auteurs des deux derniers attentats comme venant d'un village de la zone B, elle affirme promptement que l'organisation a lieu en zone A. Ce serait une tactique délibérée du Hamas de recruter les auteurs d'opérations suicides dans la zone B, afin de ne pas trop embarrasser l'autorité palestinienne. Le village en question de 8500 habitants est soumis à des sanctions collectives. Les maisons des familles des auteurs des attentats sont détruites, des maisons et des cultures sont saccagées. De son côté, la branche militaire du Hamas dément que les quatre Palestiniens étaient les auteurs des deux attentats. Ils auraient été enlevés et tués par les Israéliens pour faire croire à leur culpabilité. Personne ne croit à cette fable qui signifie surtout une volonté de prise à distance de ces actes afin de ne pas trop compromettre l'autorité palestinienne et la forcer à prendre des mesures contre le mouvement islamiste. Et je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Donc en plein marasme, mais c'est quelque chose qu'on peut dire assez souvent sur notre sujet d'étude. Je vous remercie et à la fois prochaine.